Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Comment créer une micro-entreprise? On en parle avec Al Keating qui est entrepreneur. L'entrepreneuriat vous intéresse, vous brûlez peut-être d'envie de créer une micro-entreprise, mais vous ne savez pas exactement comment vous y prendre pour maximiser vos chances de succès, quelle est la bonne procédure à suivre. Alors, on va découvrir tout cela avec notre invité Al Keating qui est entrepreneur. Al Keating, bonjour.
Bonjour Marcel.
Alors qu'est-ce que, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on comprend, on peut comprendre par micro-entreprise?
Marcel, j'ai fait un peu de devoir pour être en mesure de répondre avec précision à vos questions.
Oui.
Je suis allé sur Internet et j'ai retrouvé un article que la Radio Okapi a produit en 2009, le 24 août.
Oui.
Qui dit « La charte des PME a déjà été en chantier depuis 2005 ». Mais c'est en juillet 2009 qu'elle a été présentée et adoptée par le gouvernement congolais. Elle comprend un certain nombre d'articles. Et entre autres choses, il dit « L'une des innovations de cette charte est d'avoir introduit dans la liste des PME les micro-entreprises et les très petites, ou les très petites entreprises, communément appelées les gabelots. » Et il y a beaucoup d'autres éléments. Mais je voudrais, avant de commencer, vous donner deux définitions. La première, elle est française. Selon la Commission européenne, les micro-entreprises sont des entreprises qui occupent moins de 10 personnes. Et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan n'excède pas 2 millions d'euros. Nous parlons d'autre chose. Et on donne un certain nombre d'éléments. En France, on dit par exemple, le statut de micro-entreprise est un régime fiscal spécifique.
Oui.
Réservé à des entreprises faisant peu de chiffre d'affaires. Et vous avez vu, la hauteur n'est pas nécessairement à la lumière de ce que nous faisons. Mais nous rentrons dans la charte. Dans la charte, à l'article numéro 3, la micro-entreprise ou la très petite entreprise répond aux critères et seuils suivants. Effectif compris entre 1 et 5 employés, chiffre d'affaires annuel hors taxes variant entre 1 dollar et 10 000 dollars. Vous vous rendez bien compte que les proportions ne sont pas nécessairement les mêmes et les ambitions ne sont pas les mêmes. Alors après, on dit valeur des investissements nécessaires mise en valeur, mise en application pour les activités de l'entreprise inférieure ou égale à 10 000 dollars. C'est ce qu'on appelle chez nous la micro-entreprise.
Oui.
Voilà, plus ou moins, en termes de définition, le concept est tel qu'il est pris légalement chez nous.
Voilà, on prend le concept simplement pour le cas de qui nous concerne. On parle d'une micro-entreprise, avec, c'est-à-dire qu'il y a juste une petite affaire avec maximum 10 personnes, 10 employés, avec un montant de départ, on peut aller à partir de 10 000 dollars, donc c'est bien cela.
Maximum 10 000 dollars, oui.
10 000 dollars.
Alors, et un chiffre d'affaires annuel, grand maximum 10 000 dollars, sinon vous dépassez le cap.
Voilà, maintenant on est intéressé, on veut monter une affaire, on veut se donner plus de chances de réussir par rapport à cette affaire. Qu'est-ce qu'on va procéder? C'est-à-dire, j'ai 10 000 dollars, je voudrais me lancer dans un secteur où je me dis, il faut vraiment que je puisse entreprendre, monter une affaire. Comment doit-on s'y prendre?
La première des choses, et elle est extrêmement importante, de jamais oublier que faire des affaires est un métier difficile. Ça veut dire que tout le risque est sur l'entrepreneur. Le risque pour lui-même et le risque pour les personnes que cet entrepreneur peut employer.
Oui.
Et donc, il faut être très, très sérieux avec cette option. Première des choses. La deuxième des choses, il faut généralement faire des choses que vous aimez beaucoup. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de risques de frustration parce que un échec est arrivé. Et la force d'un entrepreneur, c'est sa capacité à se remettre debout pour repartir. Et donc, il faut faire des choses dans lesquelles vous avez de la passion, en plus du fait que ça se montre de manière évidente, tout à fait rentable. Et donc, il faut étudier le secteur dans lequel vous voulez vous engager, comprendre comment il fonctionne, vérifier ceux qui opèrent déjà dans le secteur, ça veut dire les concurrents, ceux qui sont là, et se demander qu'est-ce que vous apportez de plus, qu'est-ce qui va vous différencier par rapport à ceux qui sont déjà dans le marché, et pourquoi les gens vont venir chez vous. Mais si vous êtes beaucoup plus capable, il faut toujours venir avec une innovation. Un besoin qui est là, que personne ne voit, un besoin réel auquel les gens demandent des solutions, et vous apportez une innovation. Voilà l'une des conditions de pénétration du marché en tant qu'investisseur.
Alors, vous avez dit quelque chose de très très important, il faut être très sérieux et puis choisir un domaine qui vous passionne, mais ce qui est curieux, on remarque qu'il y a ce qu'on appelle à Kinshasa une espèce de suivisme, hein, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que vous avez de l'argent, mais vous savez pas exactement quoi faire, vous avez trouvé quelqu'un qui a reçu peut-être dans les commerces de braise ou d'une boulangerie, vous vous lancez également. Et après, vous dites, mais qu'est-ce qui m'a pris de me lancer dans cette affaire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez monter peut-être une petite boulangerie de manière une boulangerie artisanale? Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord aller consulter les personnes qui sont déjà dans ce domaine pour savoir comment ça se fait. Ou bien, bon, vous vous dites, peut-être la boulangerie, ça sera très compliqué pour moi, je me lance dans le braise, même si ça ne vous passionne pas. Parce qu'il y a plein de gens, comme je le dis, qui font comme vous avez dit, qui font du suivisme, hein, sans pourtant d'abord chercher à se dire, soit même si ce travail me passionne ou bien je serai à l'aise là-dedans.
Je pense que lorsque vous faites, vous avez un projet d'entrepreneuriat, lorsque vous avez une grande entreprise en vue, il y a ce qu'on appelle les études de marché.
Oui.
Mais cette étape est valable même pour les petites entreprises. Il faut quand même étudier le marché. Qu'est-ce qu'il vaut réellement? Qu'est-ce qu'il coûte? Quelles sont les charges? Quelles sont les conditions? Combien d'argent ça peut rapporter et où exactement et comment? Est-ce que ce projet est capable de me payer ce que je voudrais avoir à partir de cette activité? Parce que la frustration de beaucoup de personnes, c'est d'avoir l'impression que le voisin s'en sort bien, mais sans réellement avoir les chiffres. Je donne un exemple simple.
Oui.
Le voisin commence à vendre du coca, il s'en sort bien, ben vous commencez à vendre du coca juste à côté de lui et un autre commence à côté de vous. Du coup, pour le même nombre de clients, vous êtes à trois. Bien entendu, cet argent réparti sur trois personnes ne peut pas justifier un seuil de rentabilité.
Oui.
Ah, la conséquence est simple, tous les trois, vous tombez en faillite. Et si tous les trois vous tombez en faillite, vous y compris, vous allez tirer de mauvaises conclusions par rapport à la réalité. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est de toujours savoir qu'il y a un marché pour ce que vous désirez offrir et que vous avez des critères et des qualifications qui vous permettent de faire mieux que les autres. Une des choses qui est évidente en matière d'affaires, c'est la concurrence. Et elle est permanente et perpétuelle. Il faut donc être en mesure de savoir que vous serez concurrencé. Aujourd'hui, il y a quelque chose que l'on observe. Il y a des Congolais qui ont des très bonnes idées, qui commencent des affaires sans beaucoup de moyens. Les Libanais, dès qu'ils se rendent compte de l'affaire, ils mettent 10 fois les moyens et ils tuent la petite entreprise congolaise. C'est pour ça qu'on se rend compte qu'en République démocratique du Congo, même les très petites entreprises sont entre les mains des étrangers. Et donc, c'est des choses sur lesquelles il faut que l'on essaie de réfléchir. Moi, je dis une simple chose.
Oui.
Il y a deux éléments fondamentaux. Un, l'État. Dans tous les pays du monde, l'État a ce qu'on appelle les incubateurs. Ça veut dire des structures qui ne font que produire des modèles d'affaires qui sont viables pour être en mesure d'informer les gens. Quand vous lisez le SME Act, qui est en fait la loi américaine sur les petites et moyennes entreprises, toutes les informations sont regroupées, y compris les informations des besoins, pour que les gens se rendent compte que s'ils désirent monter une affaire, voici les besoins de la République et où est-ce qu'ils sont situés géographiquement parlant. Deuxième chose, c'est toujours les modes de financement. Chez nous, quand vous voulez commencer une affaire, tout le monde commence une affaire avec l'argent de poche. Mais pour croître, il faut un peu plus de moyens. Il faut donc que nous ayons la possibilité d'avoir un certain nombre de structures. Aujourd'hui, par exemple, dans le secteur de la musique,
oui.
Très malheureusement, la plupart des acteurs de la musique congolaise, même ceux qui sont les plus en vue, sont des ONG. Au lieu d'être des entreprises. Du coup, on a un instrument comme le Fonds de promotion de culture qui est censé leur prêter de l'argent, mais on ne prête pas de l'argent aux ONG. On est censé prêter de l'argent à des entreprises. Il faut que les gens prennent le courage d'y aller. Je donne un deuxième exemple.
Oui, allez-y.
La distribution du pain. On a aujourd'hui une société qui s'appelle Pain Victoire qui commence à se déployer dans la cité. Ça, c'est une très bonne illustration de ce qu'une entreprise peut avoir comme effet d'entraînement. Maintenant, la meilleure des choses serait que les points de déploiement deviennent des points de déploiement indépendants livrés à des Congolais qui prennent en location ces sites et qui les exploitent. Je donne un troisième exemple, celui-là, il est choquant. C'est la bière. Vous savez que dans la ville de Kinshasa, seul, Bralima et Bracongo, ensemble, vendent pour à peu près 4,5 millions de dollars chaque jour. Les Kinois, c'est des grands soulards lorsque vous regardez ce genre de chiffres. Mais combien d'entreprises il y a en dessous de la distribution de la bière? Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a que des informels. Il y a à peu près 8 000 bars, mais c'est des bars complètement pour rien. C'est ce genre de choses vers lesquelles l'État congolais doit pouvoir pousser le bouton pour être en mesure de formaliser l'économie. Et c'est ça, c'est extrêmement important.
Tout à fait. Al Keating, on va revenir avec vous tout à l'heure parce que c'est une émission interactive. Il y a des auditeurs qui sont déjà en ligne. On est en train de parler du comment créer une micro-entreprise. Vous êtes intéressé par le sujet. Appelez-nous 081 890 63 94.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Thomas nous appelle de Guimina dans la province de l'Équateur. Lui est à Lubumbashi dans la province du Katanga. Thomas, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Thomas Azila de Guimina. Thomas Azila.
Non, on vous écoute, Thomas. Allez-y.
Ok, je voulais poser une question. Est-ce qu'un extra-patria doit aussi à ce type d'entreprise ou bien se réserver l'aide aux nationaux? Ça, c'est ma question.
Vous avez dit?
Un extra-patria a droit à ce type d'entreprise ou encore se réserver l'aide aux nationaux? Ça, c'est ma question.
Vous voulez savoir si... je ne comprends pas très bien le premier mot là. Vous parlez d'un extra-patrie, je n'ai pas compris. Répétez.
Non, il parle d'un expatrié.
Ah, un expatrié. Ah, d'accord. Merci, Al. Merci, Al va vous répondre tout à l'heure. Alors, lui, vous êtes à Lubumbashi dans le Katanga. Allez-y, lui, c'est quoi votre question? Ah, dommage, on a perdu...
Vous remercier pour votre émission.
Ah d'accord, lui est en ligne, allez-y.
Nous avons un problème, les Congolais aiment toujours être engagés par l'État et pourtant nous avons tous les potentialités. Aujourd'hui dans beaucoup de pays développés comme en France, par année il y a plus ou moins 200 petites et moyennes entreprises qui naissent. Aujourd'hui nous les Congolais nous voulons toujours croiser les voies. Mais je voulais poser la question à l'invité, que aujourd'hui, je peux avoir une idée, mais je n'ai pas de moyens. Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment créer une petite moyenne entreprise? Tant que j'ai vraiment une idée. Et puis, la deuxième question, je voulais poser à l'invité, si vous créez une petite entreprise, mais vous avez des difficultés avec la fiscalité aujourd'hui par notre gouvernement, qu'est-ce que vous pouvez vraiment être votre attitude devant cette...
Merci, lui. Vous appelez de Lubumbashi dans le Katanga. Alors, Al Keating, qu'est-ce que vous dites à Thomas, qui vous avez bien saisi par rapport à moi, qui demandait si un expatrié peut aussi créer une micro-entreprise ou bien c'est seulement réservé aux nationaux?
Nous sommes un pays moderne et nous sommes signataires des conventions internationales. Entre autres, nous sommes membres de l'OADA. Et à ce titre, nous mettons tous les citoyens qui vivent chez nous à égalité en termes d'entrepreneuriat. Il reste que nous avons une réglementation spécifique chez nous qui parle de la distribution. Et là, on dit les petites activités de distribution de détail sont réservées aux Congolais. Donc si un expatrié au Congo et qu'il désire entreprendre dans autre chose que le petit commerce, il peut entreprendre, il peut créer une micro-entreprise. Une micro-entreprise, ça peut être une entreprise qui fait des websites. Et vous n'allez pas empêcher à quelqu'un qui fait des sites internet de travailler simplement parce qu'il travaille seul. Il travaille au Congo, il peut travailler, c'est pas un problème. Mais ce qui est interdit chez nous, c'est le petit commerce. Le petit commerce, ça veut dire la distribution, ça c'est réservé aux Congolais. Par contre, notre ami qui a demandé si vous avez une bonne idée, vous n'avez pas les moyens, il y a un mécanisme qu'on appelle le business angel, ça veut dire les anges d'affaires, les gens qui ont les moyens, qui peuvent être convaincus de la qualité de votre idée et de votre sérieux et de votre capacité à conduire votre idée en réalité. C'est des gens qui peuvent mettre de l'argent dans votre activité, vous emmenez votre compétence et votre idée et votre réalisation et vous partagez les bénéfices. Ça, c'est des choses qui ne sont pas très développées chez nous, mais c'est en train d'arriver. Par contre, en matière de fiscalité, il faut savoir que c'est un devoir. Il faut déjà être psychologiquement préparé au fait que vous avez des obligations, mais il faut surtout les connaître à l'avance. Mais en cas de difficulté, la meilleure des choses, c'est de faire face à la question en écrivant de manière directe à l'administration qui vous gère, en expliquant vos difficultés et en proposant des voies de sortie. Et généralement, les administrations fiscales sont très courtoises. Lorsque vous leur faites comprendre que vous êtes en difficulté, et cela arrive à n'importe quel opérateur économique à un moment donné de sa carrière, l'administration comprend et vous offre des facilités comme par exemple l'étalement des paiements, comme par exemple un moratoire avant que vous ne repreniez les paiements.
Voilà, Omar Kigalo nous appelle de Kinshasa. Omar Kigalo, bonjour.
Bonjour Marcel Ngombombale et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Bonjour. Je vous remercie beaucoup pour cette émission, Marcel. Vous savez que lorsque l'État n'arrive pas à créer des emplois, il est important d'encourager l'initiative privée. Voilà pourquoi je tiens à juste à vous remercier. Alors, j'ai devant moi l'ouvrage de M. Christian Welf. Il a écrit « Comment monter et réussir une affaire ». Il a donné certaines lois qu'il faut appliquer. Premièrement, il dit qu'il faut fixer un objectif. Deux, il dit qu'il faut savoir se mettre en ordre avec l'autorité établie, c'est-à-dire avoir tous les documents légaux. Et enfin, il parle de la discipline. C'était juste ma contribution, mais j'ai deux questions à poser à l'invité.
Allez-y.
Monsieur Christian Welf dit « Le capital n'est pas seulement financier, c'est aussi intellectuel ». Comment quelqu'un peut, à partir de son intelligence, monter une affaire? Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Je veux savoir, puisqu'on fait des affaires, comment attirer la clientèle? Quels sont les mécanismes à appliquer pour attirer une bonne clientèle? Et des trois, pour finir, s'il faut trouver un capital de démarrage, comment, quelles sont les techniques pour le trouver? Voilà mes questions et mes préoccupations. Je vous remercie, Marcel.
Merci, Omar Kigalo. Vous appelez donc dès Kinshasa. On va se rendre à Lubumbashi, dans le Katanga, pour accorder la parole à Adrienne Amouyeti. Adrienne, bonjour.
Bonjour, M. Marcel Ngombombala. Bonjour aussi à M. Al Kitenge.
Bonjour.
Moi, j'ai des questions à poser à M. Al. La première est de savoir, il n'y a pas moyen que la micro-entreprise puisse occuper plus de 10 personnes ou c'est vraiment nécessaire que ça puisse occuper seulement moins de 10 personnes? Et la deuxième question est de savoir, quelles sont les meilleures stratégies que les gens qui créent des micro-entreprises pourront appliquer pour mieux réussir à cette dernière? Merci, Marcel.
Voilà, merci Adrienne Amouyeti. Vous appelez de Lubumbashi dans le Katanga. On va revenir à vous, Al Kitenge, notamment avec cette question pertinente d'Omar Kigalo qui dit on n'a pas d'argent, hein, vous avez même pas évoqué ça à un moment, hein, on n'a pas d'argent, mais on veut absolument créer une affaire. Comment peut-on y arriver et comment faire en sorte qu'on puisse attirer la clientèle lorsqu'on commence une affaire?
Parfait. Pour répondre à Omar, la réponse est assez claire et simple. Vous n'avez pas d'argent, vous voulez commencer une affaire. Il faudrait que vous fassiez une étude pertinente qui peut convaincre ceux qui ont de l'argent, parce qu'il vous faut de l'argent de toute façon. Dans certains pays, on a ce qu'on appelle l'appui à l'économie. Ça veut dire de l'argent à risque que l'État met à la disposition des gens qui ont des idées innovantes, exceptionnelles. Et donc, deuxième chose, lorsque vous désirez aller vers des tiers et demander de l'argent, il faudrait que ces gens vous fassent confiance. Il faudrait que vous leur donniez des gages de sérieux. Mais autre chose aussi, c'est que si vous avez un bien que vous pouvez hypothéquer, vous pouvez obtenir de l'argent soit auprès d'un tiers, soit auprès d'une banque. Là-dessus, malheureusement, nos banques ne nous suivent pas encore assez, mais c'est des choses qui doivent être stimulées par l'État. Et je m'aperçois que la Banque centrale est en train de retravailler sur les conditions d'attractivité du crédit. Un pays qui réussit dans ça, c'est le Kenya. Il faut regarder le modèle kenyan, il donne énormément de choses. Par contre, en ce qui concerne la clientèle, lorsque vous commencez une affaire, la première des choses, c'est que vous devrez avoir fait une étude pour comprendre un petit peu que font les concurrents et qu'est-ce que vous amenez comme particularité. Une des choses qui attire bien les clients, si vous faites de la distribution classique, c'est la qualité de l'emballage. Deuxième, c'est votre circuit de distribution. Vous devez être le plus près possible de votre consommateur. Et aujourd'hui, je donne toujours un conseil élémentaire, c'est que le téléphone est à la portée de tout le monde a un téléphone. Utilisez-le pour faire votre marketing via SMS. Et si vous le pouvez, faites du marketing via Internet, et Facebook est un très bon instrument de marketing. Ça, c'est une des choses que je pourrais conseiller. Par contre, en ce qui concerne le capital de démarrage, il dépend du type d'affaires que vous désirez faire et je conseille toujours de commencer prudemment, ça veut dire avec peu de moyens, pour que si vous vous trompez, vous vous trompez à petite échelle, de sorte que vous puissiez avoir la possibilité de reprendre et de tirer les leçons de ce que vous avez fait. Par contre, Adrien a posé une question sur la micro-entreprise. C'est dans la définition qui est prise dans la charte, c'est ainsi dit, c'est la loi, c'est un maximum de 10. Dès que vous dépassez 10, vous passez à une autre catégorie d'entreprise. Et donc, pour rester dans la catégorie des micro-entreprises et bénéficier des avantages qui sont dus aux micro-entreprises, le grand maximum qu'on peut avoir comme taille d'entreprise, c'est 10. Mais bien entendu, ça c'est valable en République démocratique du Congo, dans d'autres pays, c'est différent, c'est encore une fois une question légale. Par contre, les stratégies pour réussir, la première des choses, et moi je le dis de manière claire, il faut être sérieux. Il faut être très sérieux. Il faut être professionnel. La première des choses pour être professionnel lorsque vous faites une affaire, c'est de tenir une petite comptabilité. Combien d'argent vous sortez, combien d'argent vous encaissez. Et ne jamais confondre l'argent de la société, de la micro-entreprise, avec votre proche personnel.
Ça, c'est très important.
Donnez-vous un salaire, payez-vous et agissez dans votre salaire. Séparez les biens de la société et vos biens personnels. Ça, ça garantit la pérennité de l'activité.
Voilà, Donatien Kayuka nous appelle de Goma, dans le Nord Kivu. Donatien, bonjour.
Bonjour, comme vous venez à peine de le dire, merci beaucoup de m'accorder cette parole vis-à-vis de la radio Okapi. Je suis horticulteur paysagiste de formation. J'ai une pépinière au niveau de la ville de Goma, une pépinière aux maisons de plantes, appelée la Clémence. Mais je suis en difficulté vis-à-vis de l'État. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que mon invité du jour peut me donner comme conseil pour avoir les documents? J'en ai fait au niveau de Kinshasa, au niveau du guichet unique pour la création des entreprises. On me dira, ils n'ont pas compétence, ils vont appeler ça au... Je sais pas comment, ils ont dit qu'ils n'ont pas compétence au niveau de la ville de Goma, qu'il me fallait aller au niveau de ma ville de natale de Goma. Je ne me retrouve pas, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire vis-à-vis de l'État pour avoir des documents, être en jour payé comme tout bon citoyen. Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il peut m'aider dans ce sens? Merci Radio Okapi.
Merci Donatien Kayuka. Vous appelez donc de Goma dans le Nord Kivu. On va se rendre à Kindu dans le Maniema pour donner la parole à Hadji Mahamouti. Hadji Mahamouti, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour chers invités.
Allez-y, bonjour. On vous écoute.
Je voulais poser la question par rapport à la création d'une micro-entreprise.
Oui.
Ce que moi je voulais savoir, que comment se constituent les fonds de cette entreprise? Comment on réalise les fonds de cette entreprise?
Comment on réalise le fonds de cette entreprise, c'est ça?
Plaisant?
Vous voulez savoir comment on réalise les fonds, c'est-à-dire comment avoir des fonds pour créer l'entreprise, c'est ça que vous voulez savoir?
Oui, c'est ce que je voulais savoir, puisque quand j'ai suivi l'invité au début, il a dit, il a précisé un peu des montants là-bas. Maintenant, où trouver ces montants-là?
D'accord, c'est bon.
Qui contribue ou qui donne ces montants?
D'accord, Hadji Mahamouti, l'invité a suivi, il va vous répondre tout à l'heure. À Kisangani, dans la province orientale, et on va retrouver Chimanga. Chimanga, bonjour.
Oui.
Bonjour,
Chimanga. Oui, allô, Capit Service.
Bonjour, Chimanga.
Oui, moi, je vais juste intervenir, surtout en rapport avec l'esprit de création de l'entreprise. C'est une excellente idée. Mais des fois, nous nous retrouvons dans les problèmes d'impôts et taxes. Et parce qu'il y a des fois le secteur formel et informel. Et maintenant, pour se retrouver dans le secteur formel, pour commencer à payer l'impôt, il faut avoir le capital de combien? Parce qu'il nous arrive des fois que quelqu'un aille que le capital de 200 dollars, mais on le pose de payer l'impôt, des taxes. Et maintenant, réellement, il faut avoir des capital de combien pour payer ces taxes-là et l'impôt.
Merci Chimanga, vous avez appelé donc de Kisangani dans la province orientale Alkitenge. Nous avons des préoccupations de ces auditeurs. Vous avez suivi Donatien et par rapport à la procédure d'obtention de papiers. Et quelle est la procédure lorsqu'on veut obtenir des papiers pour monter à une entreprise?
D'abord, je voudrais féliciter les auditeurs parce que il me semble de manière assez évidente qu'ils comprennent très facilement l'importance de l'entrepreneuriat par rapport aujourd'hui chez nous aux ASBL. Et donc, ils comprennent et ils ont envie d'entreprendre.
Oui.
Et ça, c'est une très bonne chose. Je voudrais donner un chiffre. Les États-Unis, en termes de revenus de l'État, 80% vient des PME, des petites et moyennes entreprises. Et quand on dit PME, c'est moins de 50 personnes. C'est la même chose dans les grandes économies comme la France, comme l'Allemagne. Chez nous, malheureusement, tout est concentré sur les grandes entreprises. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous ne pouvons pas avoir des emplois. Parce que les grandes entreprises créent un nombre limité d'emplois et en grande partie, c'est hautement technologique. Je vais quand même répondre maintenant à nos amis, en commençant par Donatien qui parle de sa pépinière. Et il dit il voudrait créer son entreprise et il n'arrive pas à savoir comment s'y prendre. Et le guichet unique se trouve simplement à Kinshasa. Il pose un problème réel d'administration de l'État. Notre pays a tendance à confondre la République avec Kinshasa. On vient de créer le guichet unique, mais l'administration de proximité n'est pas là. On a l'ANAPI ici, l'ANAPI est à Kinshasa et dans deux autres villes. Non, l'État doit se déployer sur toute l'étendue de la République, être en mesure d'enrôler facilement, à égale distance, les différents citoyens qui désirent entreprendre ou obtenir les autres faveurs de l'État, ce qu'on appelle les services publics universels. Et donc là, Donatien vient de mettre le doigt dans une véritable incompétence de l'État congolais. Et là-dessus, il est important que l'on sache que toute réglementation nationale doit être déclinée en réglementation provinciale et les services publics de l'État doivent être disponibles partout. Et donc, mon point de vue, c'est qu'il devrait s'adresser à sa ville. Sa ville doit avoir un bureau que l'on appelle le bureau de l'économie dans le gouvernement provincial. Et eux, ils doivent être en mesure de le renseigner sur les modalités pour être en mesure de s'enregistrer en fonction de la taille et de la catégorie dans laquelle il opère. Adji pose la question des fonds et du capital. Je l'ai dit encore tout à l'heure. Vous devez partir sur des fonds propres. Si vous ne les avez pas, il y a aussi des dons de famille ou des contributions de famille ou des amis, si vous désirez commencer une affaire. Mais plus professionnellement, si vous avez un bon projet, qu'il est démontré que vous avez la capacité de le conduire et que les gens ont confiance en vous parce que vous avez un comportement viable, les gens peuvent s'associer à vous et vous donner de l'argent pour que vous ameniez votre savoir-faire, votre projet et votre capacité de travail. Et donc, voilà les moyens par lesquels on peut passer. Dans certains pays, comme je le disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les fonds d'appui à l'économie. En ce moment-là, c'est de l'argent à risque que l'État donne aux gens en disant s'ils réussissent, tant mieux, s'ils ne réussissent pas, tant pis. Par contre, le secteur informel a deux grands défauts. Le premier, c'est qu'il n'a aucune norme. Deuxième, c'est qu'il est créateur de pauvreté. Moi, je connais des gens qui sont dans le secteur informel des années et des années et des années et ils ne s'enrichissent pas. Mais nous connaissons également des criminels économiques, des gens qui ont des affaires viables, qui ont même accès au marché public et qui créent des millions et des millions de dollars et qui laissent les empoches sans pouvoir payer quoi que ce soit à l'État. Vous savez, le passage de l'informel au formel n'a pas que de devoir, le devoir de payer les taxes, mais ça a aussi des avantages. Les grands avantages, et ça devrait être le point d'attractivité de l'État, c'est la capacité de donner accès au marché public, à tous les échelons, aux PME et micro-entreprises congolaises, que ce soit à la commune, que ce soit à la ville, ou que ce soit à la province, que ce soit même au niveau du gouvernement central. C'est le point d'attraction. Et aujourd'hui, malheureusement, le Congo et le gouvernement congolais ne fait pas le lien entre sa capacité à attirer les gens, parce qu'en fait, pour quelle raison les gens se déclareraient et se mettraient à payer? Il faudrait bien qu'il y ait quelque chose qui les attire.
Tout à fait.
Et entre autres choses qui devraient les attirer, ce sont les grands avantages de l'État.
Tout à fait.
Le deuxième facteur d'attraction, oui. C'est l'accès au crédit bancaire. Lorsque vous êtes une entité formelle, lorsque vous tenez une comptabilité et vous montrez que vous progressez, les institutions de microfinance ou les banques peuvent vous prêter de l'argent en fonction de la viabilité de votre rapport comptable et de l'effectivité des activités économiques que vous opérez. Et donc, face à l'État et face aux banques, vous avez intérêt de passer de l'informel au formel et de tenir une comptabilité et d'être sérieux avec ce que vous êtes en train de faire et de dissocier votre poche personnelle avec votre petite entreprise.
Exactement. Alors, on va découvrir rapidement des réactions qui nous sont parvenues par SMS. Il y a cette réaction de Rifep de Lubumbashi qui crée une entreprise exige trois préalables, la formation, les coachings, l'accès aux services financiers, la diminution des tracasseries administratives de l'État. Donc c'est Patrick Ngoy hein, qui est expert comptable qui nous écrit de Lubumbashi. Il y a également Israël Soudi Kilurikiro qui écrit de Goma et qui demande quels sont les documents officiels qu'on doit avoir pour créer une micro-entreprise en RDC. Vous avez évoqué la question. Il y a également Freddy Lubumbashi qui écrit quelles sont les techniques que l'on peut appliquer pour gagner la clientèle à nos concurrents trouvés sur le terrain. Vous avez également évoqué cela. Vous avez même parlé de SMS et de trucs pour élargir la clientèle. Et avec quel chiffre d'affaires peut-on commencer sa petite entreprise? Ça dépend. Vous allez peut-être encore donner une petite précision par rapport à ça. Et Aimé Dissiro qui dit pour s'engager dans une entreprise, quelqu'un, il faut d'abord savoir comment est son fonctionnement. Il est agréé à l'État et enfin sa capacité de paiement. Alors, Al, on va donc terminer avec vous d'abord en disant que pour le capital, tout dépend de ce que l'on veut faire. C'est-à-dire que si on veut commencer une affaire avec peut-être 10 000 dollars, il ne faut pas se risquer directement avec 10 000 dollars. On peut commencer petit à petit avec peut-être 5 000 dollars, voir comment ça va évoluer et puis surtout être sérieux.
Il faut vraiment être sérieux parce que l'argent c'est très important. Lorsque vous le perdez, vous l'aurez plus. Lorsque vous avez perdu et que c'est de l'argent qui ne vous appartient pas, donc vous devez encore payer à des gens. Et donc il faut vraiment être sérieux et savoir ce qu'on veut réellement faire. Il faut connaître toutes les informations de base par rapport à l'opérationnalité du business que vous désirez faire. Par contre, en matière de création d'entreprise, il y a des gens qui sont assujettis à la patente, ça c'est des très petites activités, mais lorsque vous désirez faire une activité formelle, vous faites ce qu'on appelle un statut. Et en ce moment-là, vous, avec les statuts, vous obtenez soit un numéro de registre de commerce et l'identification nationale.
Oui.
Et aujourd'hui, dans le cadre du guichet unique et dans le cadre de l'attractivité par rapport au doing business dans notre pays, ça ne coûte que $120 pour avoir à la fois les statuts qui soient légalisés et que eux s'occupent de tout et qu'ils vous remettent les documents pour commencer à travailler. Maintenant, le grand souhait, c'est que cette opérationnalisation du guichet unique soit surtout étendue dans la République pour être en mesure d'être à égale distance par rapport aux citoyens. Par contre, il y a un auditeur qui a parlé de la stratégie pour attirer la clientèle. À mon avis, la bonne manière d'attirer la clientèle, c'est d'abord faire connaître le produit. Ça veut dire qu'en fait, faire toucher le produit au client, qu'il découvre le produit de manière physique et réelle, et après, l'attaquer sur le plan virtuel avec la publicité. Mais la meilleure publicité, c'est le test. C'est pour ça que lorsque vous faites un tirage, un tout nouveau tirage par exemple, la bonne manière de faire les choses, c'est de vous mettre à un coin et de cirer les souliers des gens pour qu'ils voient effectivement que votre tirage produit les effets que vous dites qu'il produit. Après, lorsque vous aurez un peu plus d'argent, vous pourrez vous adresser aux grands canaux de médias, ceux qui demandent déjà beaucoup d'argent.
Oui.
Mais je pense simplement que l'effectivité de la qualité des produits que vous vendez, l'emballage et la présentation, bien entendu le circuit de distribution, et les tests vous permettent d'attirer la clientèle. Il y a quelque chose qui marche très bien, c'est le bouche à oreille. Quand quelqu'un est satisfait, il le dit à 10 personnes. Mais quand quelqu'un n'est pas satisfait, il le dit à 1000 personnes. Donc ne commettez jamais l'erreur de présenter un nouveau produit sur le marché parce que ça va vous tuer dès le départ.
Merci.
Par contre, la
oui.
taille du capital,
oui.
pour commencer une affaire, ça dépend
oui.
de l'affaire elle-même.
Tout
à il y a
fait.
Des gens qui commencent avec $200 et ils vont très vite, 200$, 500, 1000. Regardez les gens qui sont dans le circuit de distribution des cartes de crédit. Vous n'avez pas besoin d'un grand montant pour commencer. Mais il y a des affaires qui demandent quand même que vous ayez un peu plus d'argent parce que il faut prendre les coûts de structure en charge. Si vous devez payer un petit loyer ou si vous devez louer une table dans un marché ou si vous devez payer un employé ou si vous devez utiliser un véhicule. Et donc, encore une fois, le capital, ça dépend de ce que vous avez à faire et vous devez faire une bonne étude pour être sûr que les 3 prochains mois, même si vous ne gagnez pas encore suffisamment d'argent,
Merci.
Vous avez quand même de quoi rester dans le marché.
Merci.
Parce que la plus grosse difficulté, c'est la vulnérabilité au démarrage.
D'accord. Merci, Alki Tingui. On va s'arrêter par là. Nous rappelons que vous êtes entrepreneur et vous étiez notre invité pour commenter les sujets comment créer une micro-entreprise. Merci à la prochaine occasion.
Merci beaucoup.